Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée aux lanceurs d'alerte et à la géopolitique qui s'y rattache. Hommes, femmes, ils alertent l'opinion sur une menace sociale, sanitaire, démocratique ou environnementale. Ils prennent un jour le risque de sacrifier leur carrière, leur confort, leur vie privée pour dénoncer ce qui leur semble injuste. Au nom de l'intérêt général, regard sur les soutiens et relais que leur réserve la société civile. Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de l'information ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités, William Bourdon, avocat et pénaliste spécialisé dans la défense des droits de l'homme, président de Sherpa, ONG spécialisée dans la défense des victimes de crimes économiques, président fondateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, avocat de plusieurs lanceurs d'alerte célèbres, Edward Snowden, Hervé Falciani, Antoine Deltour. William Bourdon, bonjour.
Bonjour.
Olivier Piau, par téléphone, journaliste, fondateur de Médias et Démocratie, auteur de l'audacieuse résistance des lanceurs d'alerte africains, article de l'édition mai 2018 du Monde Diplomatique. Bonjour.
Bonjour.
Et toujours en studio, Jean-Jacques Lumumba, ancien cadre de la Banque Gabonaise et Française Internationale, BGFI, lanceur d'alerte à l'origine de ce que les médias congolais ont baptisé les Lumumba Papers. Bonjour.
Bonjour.
Et Renaud Piarou, spécialiste des maladies infectieuses et professeur de parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Mondialement reconnu pour son expertise du choléra, Renaud Piarou, le médecin qui a tenu tête à l'ONU en pointant la responsabilité des casques bleus contaminés à Haïti dans l'épidémie de choléra qui a fait plus de 10 000 morts depuis 2010. Bonjour.
Bonjour.
Le phénomène des lanceurs d'alerte connaît une dynamique assez impressionnante. Est-ce qu'il est seulement le fait d'Internet, William Bourdon ?
Non, pas du tout. Même si Internet a été un facteur à la fois d'universalisation, d'intensification, y compris parfois de dramatisation des alertes, mais aussi dans certains cas de protection des lanceurs d'alerte. L'émergence de cette nouvelle génération des lanceurs d'alerte, elle est née il y a déjà 20 à 25 ans, même si c'est important de dire que le 21e siècle va être le siècle des grands lanceurs d'alerte. Alors pourquoi, en deux mots ? Parce qu'il y a un télescopage qui est intervenu ces dernières années entre à la fois une universalisation de l'intolérance d'un nombre croissant de citoyens, face à deux nouvelles tyrannies. La tyrannie de la cupidité, la tyrannie de la voracité. Celle qui fait que l'on utilise le pouvoir comme un raccourci pour s'enrichir, sa famille et son clan. Avec des exemples catastrophiques en Afrique, on en parlera avec mon grand ami Jean-Jacques tout à l'heure. La tyrannie de la voracité et du retour sur investissement, qui conduit parfois à la mise sur le marché de médicaments mortifères. Le scandale du Mediator. Et puis, une deuxième tyrannie, c'est ce sentiment que la lutte contre le terrorisme, elle potentialise la possibilité d'un État profond, d'un État dans l'État, celui-là même qui a été, dont les masques sont tombés du fait du courage exceptionnel d'Edward Snowden, qui a mis en lumière ce système de surveillance massive de milliards et de milliards de citoyens, du plus anonyme au plus haut responsable public. Et télescopage entre cette double universalisation de cette universalisation de cette intolérance, avec le sentiment que ceux qui sont comptables et redevables de protéger l'intérêt général, soit le font de moins en moins bien, soit se moquent du monde, soit sont des imposteurs, soit sont des incompétents, soit n'ont plus de marge de manœuvre, alors même que ces mêmes responsables publics ne cessent de dire aux citoyens « il y a un compte à rebours qui est lancé, l'humanité va être en feu, des fléaux sont en train de s'abattre sur l'humanité ». Il faut donc réagir. Et donc les lanceurs d'alerte, ils portent, et je termine là-dessus, ils portent ce sentiment d'une co-responsabilité face à la nécessité de prévenir des menaces très graves à l'intérêt général, au moment où parfois il est vendangé. Et c'est donc aujourd'hui le 21e siècle, le siècle des grands lanceurs d'alerte, du plus anonyme au plus célèbre. Et c'est une des missions que je m'attelle aujourd'hui à remplir, c'est justement d'essayer partout que c'est possible de le protéger.
Alors le 21e siècle, le siècle des grands lanceurs d'alerte, je vais vous demander à chacun de réagir. Olivier Piau.
Oui, je crois que ce que dit William Bourdon est vrai d'une manière très générale aujourd'hui sur la planète, en particulier pour prendre le cas de mon enquête en Afrique. Je crois qu'il y a en Afrique des mécanismes par lesquels le citoyen lambda, quel que soit son métier, devrait pouvoir exprimer un mécontentement, dénoncer un certain nombre de choses. Je pense aux organisations des droits humains, je pense aux élections je pense aux médias, tous ces mécanismes sont grippés ou pervertis, en particulier en Afrique. Pas seulement, mais en particulier, y compris dans un pays comme l'Afrique du Sud, qui est un pays où il y a un état de droit. On l'a vu avec l'affaire Gupta, la démission du président Zuma. Derrière cet état de droit, où on est censé retrouver un arsenal juridique propre à défendre un citoyen qui défendrait telle ou telle pratique illicite, en réalité, il y a un système politique corrompu qui est un blocage pour les citoyens pour exprimer leur mécontentement. Donc je crois que le plus important de ce que j'ai découvert dans cette enquête, à la fois avec la République démocratique du Congo, au Niger, en Algérie, en Afrique du Sud, je crois qu'en Afrique, ce qui est très significatif, c'est que lancer l'alerte devient une sorte d'ultime acte possible de résistance par rapport à des mécanismes démocratiques qui sont, encore une fois, grippés ou pervertis.
Alors, lancer l'alerte, un acte de résistance. Je me tourne vers vous, Renaud Pierroux, Jean-Jacques Lumumba. Une réaction à ce que vient de dire Olivier Piau, peut-être à travers votre expérience personnelle, Jean-Jacques Lumumba.
Bien évidemment, c'est une forme de résistance, c'est une forme de dire non à l'impunité financière qui s'est installée en Afrique et plus particulièrement dans nos pays en quête de démocratie et de liberté comme un mode de gouvernance. Et c'est une façon dans sa profession de contribuer à cette lutte vers l'émergence des États beaucoup plus libres et beaucoup plus démocratiques. Vous venez d'évoquer le cas de l'Afrique du Sud, certes qui a des institutions beaucoup plus stables que mon pays, le Congo, mais qui bien évidemment fait face à cette même dynamique. Mais c'est un acte de courage et de bravoure pour dire non à ce qui plombe l'Afrique aujourd'hui, parce qu'il y a en Afrique une thèse qui continue à se développer pour dire que c'est l'Occident qui est totalement responsable de notre malheur. Mais en réalité, en observant la façon dont les choses sont en train de se dérouler, le mode de gouvernance et les institutions financières qui aident à faire accroître cette mégestion, il faudrait bien qu'il y ait des gens qui arrivent à dire non, parce que il s'agit d'une profession à défendre, il s'agit des intérêts de toute une nation à défendre, et lancer l'alerte. Et aussi, comme le disait William Bourdon, c'est cet ultime recours face à des États voraces, cupides, qui ne pensent pas à leur population et qui pensent plutôt à s'en mettre plein les poches et qui détruisent l'avenir des générations.
Renaud Pierroux.
Oui, simplement pour dire que dans le cas qui me concerne, étant plus spécialiste des épidémies, les épidémies qui sont aussi un des fléaux que l'on rencontre de manière un peu surprenante au XXIe siècle, on pourrait penser pouvoir les contrôler. Lancer l'alerte, en fait, dire ce qui se passe en un endroit donné et expliquer pourquoi on a une épidémie en un endroit donné est une nécessité pour lancer un programme de santé publique derrière. Donc, c'est un acte citoyen, certes, mais c'est une nécessité de santé publique que d'expliquer pourquoi une épidémie est arrivée à tel ou tel endroit, pourquoi elle se propage, quels sont les problèmes qui sont sous-jacents et qu'il va falloir régler pour pouvoir maîtriser l'épidémie.
Alors on parlera bien sûr de votre expérience à chacun, qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas, je pense que c'est quelque chose tout de même d'assez compliqué. William Bourdon, la géopolitique du phénomène des lanceurs d'alerte, elle est liée à la protection des lanceurs d'alerte, malgré la valeur de plus en plus importante des révélations dans le monde entier, le cadre juridique censé les protéger est extrêmement faible, l'Afrique ne fait pas exception et vous en savez quelque chose, j'ai relevé le chiffre de 7 pays sur 54 en Afrique qui ont adopté des lois de protection des lanceurs d'alerte. C'est pas mieux en Europe, 11 sur 28, alors que les grands flux d'argent sale et opaque prospèrent et que la séparation entre intérêt général et intérêt personnel est brouillée. Vous avez lancé en mars 2017 à Dakar, au Sénégal, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans cette aventure et quelle est la mission de la PLAF?
Alors moi je suis très très fier d'avoir lancé PLAF il y a un an. On a lancé un rapport annuel qui est maintenant publié sur le site et qui témoigne de la vitesse incroyable avec laquelle nos activités se sont développées. Alors pourquoi ? Pourquoi PLAF? Parce que nous avons considéré, j'ai considéré qu'il fallait doter les citoyens africains d'un outil spécifique adapté à la situation trop souvent de très grande précarité et d'insécurité juridique dans laquelle ils se trouvent, qu'évoquait Jean-Jacques tout à l'heure, et leur donner la possibilité, un, de pouvoir poster par l'intermédiaire d'une ligne cryptée des documents, des informations, c'est-à-dire le support de l'alerte. Deux, d'avoir accès à une hotline aujourd'hui en français, en anglais, bientôt en arabe et dans différentes langues, en espagnol, en portugais, pour pouvoir dialoguer avec quelqu'un, une personne ressource, pour les assister dans la mise en œuvre d'une stratégie individuelle qui à chaque fois doit être tout à fait personnalisée, parce qu'il y a une très grande biodiversité et parfois une très grande complexité dans la situation dans laquelle se trouvent les lanceurs d'alerte. Et donc, à partir de ces échanges, de les mettre en contact avec tous nos partenaires qui bourgeonnent maintenant partout en Afrique, des médias, des cabinets d'avocats qui viennent nous rejoindre. Et puis troisième activité, un think tank. On est allé au Nigeria, on va y retourner pour aider les parlementaires à Abuja à essayer, on va tenter de le faire, de se doter d'une loi si possible exemplaire de protection des lanceurs d'alerte au Nigeria qui en a bien besoin. Mais je termine pour dire deux choses. L'Afrique, pourquoi? Parce que, évidemment, c'est en Afrique, mais il y a bien des autres continents où cette plateforme serait tout à fait nécessaire et utile.
Vous pensez à l'Asie, l'Amérique latine?
L'Asie, l'Amérique latine, bien entendu. Regardez les scandales de corruption, quand même. À la fois, une présidente de la République ancienne à Séoul qui a été incarcérée. Regardez Lula. Donc, tout ça témoigne de ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire l'insupportabilité de ceux qui confondent intérêt général et intérêt particulier. Cette insupportabilité, elle n'a jamais été aussi dramatique et aiguë à travers le monde. C'est vraiment un nouveau paradigme mondial. Et puis le paradoxe, c'est qu'il y a des lois aujourd'hui en Europe. Regardez la loi Sapin 2, qui a été votée il y a quelques mois, qui améliore la protection des lanceurs d'alerte. Mais le paradoxe, comme toujours, c'est que plus la loi protège, et plus les artisans, les ingénieurs, les acteurs des grands circuits d'argent sale développent, grâce aux mécanismes de la mondialisation, des stratégies de pacification, de sophistication, s'agissant de leur obsession, c'est-à-dire maintenir une pérennité de leur impunité. C'est là où les lanceurs d'alerte sont indispensables. Vous pouvez avoir en Afrique la loi la plus exemplaire, vous pouvez avoir les déclarations anticorruption, de bonne gouvernance, si on ne permet pas à un lanceur d'alerte, en Afrique, du fin fond de l'administration où on lui demandera de fermer les yeux sur d'innommables forfaitures, tout d'un coup de sortir de l'obscurité, d'exercer, comme dit Hannah Arendt, ce droit d'appel citoyen, cette insurrection intime, comme dit Vaclav Havel, et de dire voilà, il y a PLAF, je vais poster les documents. Tous les auditeurs qui m'écoutent doivent comprendre. Il ne s'agit pas du tout de les inviter à prendre des risques n'importe comment. Évidemment, il y a une stratégie individuelle. Ça peut être très lourd de conséquences si on se précipite trop, si on n'anticipe pas sur les difficultés et les risques. Mais si, en responsabilité, vous pouvez, je parle aux auditeurs, visiter le site de PLAF et déterminer dans quelles conditions, peut-être, vous pouvez lancer des alertes sur des graves forfaitures, des graves crimes financiers, des graves dégâts environnementaux, des graves dégâts à la santé publique en Afrique, eh bien, je pense que vous participerez de ce formidable réveil citoyen, dont d'ailleurs, je veux dire ici, que la société civile africaine en est aujourd'hui la pointe avancée et sans doute la plus spectaculaire.
Olivier Piot, quelques mots sur précisément la société civile africaine ?
Oui, alors, pour rebondir sur ce que vient de dire William Bourdon, effectivement, l'arsenal juridique qui est bien souvent absent en Afrique, il est nécessaire de le faire progresser, qu'essaye de faire la plateforme, notamment, entre autres, au Nigeria, avec ce think tank. Mais il y a des pays comme l'Algérie, où l'arsenal est là, et il est même là depuis un moment. J'en parle dans mon article, et je voudrais citer ce cas en particulier, de cet ancien directeur commercial du port d'Oran, qui s'appelle Noureddine Tounsi. Il y a un procès qui est en cours contre lui en ce moment en Algérie, alors que ce pays a tout un arsenal de protection des citoyens qui dénoncent des faits de corruption, un ministre qui même encourage publiquement ses citoyens à entrer dans le protocole de dénonciation, donc il invite les Algériens. Et voilà donc cet ancien directeur commercial qui, depuis 2 ans, à dénoncer, fait à l'appui, d'abord de façon anonyme pour se protéger, puis ouvertement, dans certains journaux seulement algériens qui ont accepté de prendre le risque de faire le relais. Il a dénoncé donc des faits graves de corruption, et toutes les procédures qui devraient être engagées par la justice algérienne contre les personnes incriminées n'avancent pas, et alors que le nouveau code de procédure pénale de 2015 en Algérie a plusieurs articles qui engagent les autorités algériennes à protéger les lanceurs d'alerte, voilà que ce monsieur, Noureddine Toutsi, se retrouve lui-même en procès. On l'accuse d'avoir livré des renseignements secrets d'entreprise, de diffamation. Donc le paradoxe, c'est qu'on a des autorités qui se prévalent d'avoir mis en place un national de protection, de lutte anticorruption. Et puis dans ce cas particulier, eh bien, la personne qu'on poursuivait en justice, ce ne sont pas les autorités mises en cause, mais le lanceur d'alerte. Donc voilà un beau paradoxe, on le connaît par ailleurs, et donc pour dire qu'il faut un courage, une audace, une bravoure, y compris pour des raisons, cette personne a été licenciée comme beaucoup, il a dû payer lui-même des amendes, donc il est mis en difficulté personnellement, psychologiquement, moralement, et la présence d'une structure comme la PLAF lui a permis, là encore, de relever la tête. Il s'est adressé aussi à la Ligue de défense des droits de l'homme algérienne à Oran. Donc il est entouré, mais on voit que la loi ne suffit pas. Il faut derrière d'autres mécanismes de soutien de ces lanceurs d'alerte.
Alors la PLAF, on l'a bien compris, plateforme, donc je le répète, mais c'est important pour les auditeurs qui nous rejoignent, plateforme donc de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Alors on l'a bien compris, il y a deux thèmes qui nourrissent le débat actuel, la solitude des lanceurs d'alerte et l'organisation de leur nécessaire protection. Olivier Piot le disait, courage, audace, bravoure, Jean-Jacques Lumumba, vous n'en avez sans doute pas manqué, et c'est intéressant d'avoir votre témoignage. Je rappelle que vous êtes banquier et que vous avez dénoncé le système Kabila. Vous vivez en exil en Europe depuis, vous allez nous le dire, depuis que vous avez lancé l'alerte. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cadre de banque comme vous pour se décider à franchir le pas? Comment est-ce que vous avez agi et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés?
D'abord, la première des choses, il faut dire, pour en arriver là où on en est, c'est que j'ai d'abord défendu ma profession. Parce qu'une profession bancaire est cadrée par une réglementation, des normes prudentielles. Et la première des choses, c'est de défendre sa profession et de dire non aux abus et de dire non à tout ce qui va à l'encontre de ce qu'on fait. Quand un directeur général vous demande de faire ce qui ne va pas dans le cadre de votre métier, je pense que en ce qui me concerne, je me suis beaucoup opposé à toutes les mauvaises pratiques. Et il y a le courage, il y a la bravoure. Pour mon cas personnel, il y a toute une éducation que j'ai reçue. Comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission, c'est que la mère de Patrice Lumumba...
Patrice Lumumba, dont on rappelle qu'il est le père de l'indépendance et qu'il fut assassiné en
1961, dont la mère m'a bercé pratiquement, avec qui je grandis, et qui m'a inculqué des valeurs. Son fils, qui est mon grand-père, m'a inculqué des valeurs. Mes parents m'ont inculqué des valeurs. Et tout ça a joué dans ma prise de décision, parce qu'il était question de voir le danger et de faire la part des choses en se disant qu'il y a une lutte et une mission à faire pour que toutes ces personnes aient gain de cause un jour. Certes, c'est difficile, il faut beaucoup de courage. Je vis en exil, comme vous l'avez dit, ça va faire bientôt 2 ans, et c'est une situation qui n'est pas facile. D'un point de vue sécuritaire, il y a beaucoup de menaces. Tout cet acte, en quelque sorte, menace aussi ma vie, menace ma famille. Et les menaces ne cessent pas, ça continue. William Bourdon, qui est mon avocat, en sait quelque chose. Mm-hmm. Il y a des choses peut-être qu'on ne dira pas ici, mais c'est un choix difficile parce que ça déstabilise des gros systèmes financiers. Ça déstabilise des personnes qui ont le pouvoir. Ça déstabilise des personnes qui se sont investies dans la mauvaise gouvernance et dans la corruption. Donc il faut beaucoup de courage pour en arriver là et dire non et se mettre vraiment dans le cadre de la société civile en ce qui concerne la recherche d'un état de droit et la recherche d'un état beaucoup plus sain pour les questions financières.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission avec votre témoignage à vous, Renaud Piarou. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Renaud Piarou, Jean-Jacques Lumumba et William Bourdon, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les lanceurs d'alerte et la géopolitique qui s'y rattache. Nous retrouvons nos invités. William Bourdon, avocat et pénaliste spécialisé dans la défense des droits de l'homme, président de Sherpa, ONG spécialisée dans la défense des victimes de crimes économiques et président fondateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Jean-Jacques Lumumba, ancien cadre de la Banque gabonaise et française internationale, BGFI, lanceur d'alerte à l'origine de ce que les médias congolais ont baptisé les Lumumba Papers. Et Renaud Piarou, spécialiste des maladies infectieuses et professeur de parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, mondialement reconnu pour son expertise du choléra. Renaud Piarou, le médecin qui a tenu tête à l'ONU en pointant la responsabilité des casques bleus cantonnés à Haïti dans l'épidémie de choléra qui a fait plus de 10 000 morts depuis 2010. Renaud Piarou, Olivier Piau, journaliste et qui participait à la première partie de l'émission pour avoir été l'auteur d'un article sur les lanceurs d'alerte africains, évoquait la nécessité de courage, d'audace et de bravoure. Racontez-nous votre histoire à propos de la question de l'épidémie de choléra en Haïti.
Étant spécialiste du choléra, j'ai été mandaté pour venir travailler sur l'épidémie de choléra qui débutait en Haïti, qui était une épidémie extrêmement sévère, et cette demande provenait en fait du gouvernement haïtien. Et en faisant l'investigation de cette épidémie, je me suis aperçu qu'elle avait été provoquée par l'arrivée d'un contingent de casques bleus népalais, que ces soldats avaient été malades et qu'ils avaient finalement, le choléra est une maladie transmise par les matières fécales, et les fosses septiques du camp où étaient hébergés les soldats népalais avaient été déversées dans la nature et même directement donc dans un cours d'eau qui avait contaminé l'ensemble du bassin du principal fleuve d'Haïti, c'est le bassin de l'Artibonite.
Donc et une grande négligence à l'origine.
Une énorme négligence, des choses qui ne devraient plus se faire maintenant parce qu'on connaît le pouvoir de transmission des eaux contaminées. Et ça a déclenché du jour au lendemain une épidémie où des dizaines de milliers de personnes se sont contaminées le même jour en buvant l'eau du fleuve ou des canaux qui sortaient de ce fleuve. Et ce que j'ai pu constater, c'est que l'ONU, finalement, on parlait de stratégie d'opacification. Ces stratégies d'opacification ne sont pas l'apanage des pays, mais ne sont pas l'apanage non plus des grandes entreprises. On pense aux cigarettiers, par exemple, à propos du risque de cancer du poumon et lié au tabac. Et que l'ONU pouvait tout à fait adopter ce genre de stratégie. Et dans le cas présent, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir que des agences de l'ONU, comme l'Organisation Mondiale de la Santé, et en particulier la Pan American Health Organization, la partie américaine de l'Organisation Mondiale de la Santé, a tout fait pour faire croire que l'épidémie avait débuté ailleurs pour des causes différentes.
Et que c'était une génération spontanée, d'une certaine manière, peut-être.
C'était expliqué comme quelque chose lié au climat, lié à des perturbations écologiques, et bien sûr survenant à distance et sans aucun lien avec l'arrivée de ces casques bleus népalais.
Alors cette non-reconnaissance par l'ONU, Renaud Piarou, elle était avant tout financière, c'est-à-dire qu'il aurait fallu indemniser les familles des victimes.
Oui, on a eu officiellement plus de 800 000 cas, plus de 10 000 morts, en fait plusieurs dizaines de milliers de morts très probablement, et on s'est posé effectivement la question du risque de demande d'indemnisation pour une opération de maintien de la paix. Et le département des opérations de maintien de la paix ne veut absolument pas avoir à être tenu responsable de quoi qu'il se passe au cours d'une mission de maintien de la paix. Alors Haïti n'était pas en guerre, mais c'était une mission de stabilisation. Et on reste sur cette ligne-là, c'est-à-dire que il n'est toujours pas question que le budget des opérations de maintien de la paix ou qu'une fraction non dépensée, par exemple, par la mission en Haïti, puisse être utilisée soit pour lutter contre l'épidémie, éviter qu'il y ait de nouveaux morts, soit pour commencer à dédommager les victimes.
Alors, en tant que lanceur d'alerte, puisque c'est le cas en ce qui vous concerne, c'est-à-dire que vous avez pointé du doigt la responsabilité directe de l'ONU dans l'épidémie de choléra qu'a connue Haïti, quels ont été les obstacles qui ont été les vôtres, Renaud Piarou?
Je me suis posé la question du danger de faire cette investigation à certains moments parce que l'atmosphère était pesante. Mais on est passé plutôt par une controverse scientifique, un combat scientifique, parce que à l'aide de ces informations erronées, par exemple transmises par la Pan American Health Organization et par d'autres organisations comme l'organisme de coordination des affaires humanitaires, toujours de l'ONU, beaucoup de scientifiques ont cru qu'il s'agissait là d'un problème d'émergence, effectivement, à partir de l'environnement, de l'épidémie de choléra, et il a fallu convaincre, et il a fallu d'abord gagner la bataille scientifique, d'où le fait que le travail que j'ai fait, je ne pense pas aux mots de bravoure, de courage, mais plutôt de persévérance, de rigueur et de volonté d'aller de l'avant, parce que après, lutter contre l'épidémie de choléra nécessite qu'on en connaisse les mécanismes. Et donc, il n'y a pas de sens à vouloir lutter contre la transmission du choléra sans chercher à savoir comment le choléra a pu arriver dans un endroit ou dans un autre. Et même concernant Haïti, le fait de dire que c'était venu de l'environnement condamnait Haïti à garder le choléra éternellement, puisque dans ces cas-là, on ne peut pas changer l'environnement et on pourra toujours dire, bon, puisque le choléra est dans l'environnement, il y aura toujours des malades. Et c'est actuellement un débat, justement, lié à cette stratégie de pacification de l'ONU.
Alors je demanderai à William Bourdon de réagir à votre expérience. La position de l'ONU aujourd'hui
Alors la position de l'ONU a évolué suite à mon investigation, puis à l'intervention d'autres collègues scientifiques qui m'ont emboîté le pas, qui ont ajouté des éléments de preuve. D'autres sont intervenus pour justement faire qu'il soit impossible de nier l'évidence. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il y a des gens au sein de l'ONU qui ont commencé à se poser des questions et à alerter. Et je voudrais rendre hommage à deux personnes. La première personne, c'est un scientifique américain qui s'appelle Ralph Rerix, qui a, dans un livre qui s'appelle Deadly River, fait la narration de toute mon investigation et de la manière dont l'ONU a essayé de mystifier sur l'origine du choléra. Et à partir de ce livre, un professeur de droit, mais rapporteur spécial pour l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, Philip Alston, a fait un rapport extrêmement virulent contre l'attitude de l'ONU, et il a obtenu de Ban Ki-moon, qui était le secrétaire général de l'ONU à l'époque, après 6 ans finalement de bataille, que Ban Ki-moon fasse ses excuses et les excuses de l'ONU au peuple haïtien. C'était assorti d'une promesse de financement de la lutte contre le choléra et de dédommagement des victimes. Cette promesse, malheureusement, n'a pas été tenue.
Il n'y a pas eu de procès non plus fait par l'État haïtien à l'encontre de l'ONU.
Je ne suis pas spécialiste de droit, mais l'ONU dit que, de toute façon, on ne peut pas leur faire des procès puisqu'ils ont une immunité totale et c'est eux qui décident si on a le droit ou pas de protester. Il y a eu un procès, en fait, aux États-Unis, de la part de Class Action, un procès collectif. C'est le gouvernement américain qui est monté au créneau pour dire qu'il n'y a pas lieu de faire procès à l'ONU parce que c'est l'ONU.
William Bourdon, un commentaire sur ce que vous avez entendu et
d'abord,
l'action
saluer le courage formidable de nos deux grands témoins aujourd'hui. Ensuite, dire qu'ils illustrent parfaitement le fait que ce sont parfois ceux qui devraient être le plus exemplaire, le plus impeccable, qui ne le sont pas. Que certains politiques se gorgent d'engagements éthiques pour mieux les fouler aux pieds et se moquer des citoyens, que des multinationales nous serinent sur leur site internet qu'elles sont devenues les Pères Noël de l'humanité et laissent faire l'inverse à leurs filiales et leurs sous-filiales. Alors, quand même, deux leçons. La première, c'est que, effectivement, ça demande du courage. C'est une prise de risque. Jean-Jacques a quitté son pays, une partie de sa famille. C'est une très lourde responsabilité de protéger les lanceurs d'alerte. Ça demande beaucoup de vigilance. Et puis, une deuxième vigilance qui tient au fait que ce qui protégera les lanceurs d'alerte, c'est le fait que la loi exigera d'eux une certaine intégrité pour faire taire ceux qui annoncent une société des corbeaux et des mouchards, qui ne veulent pas entendre parler des lanceurs d'alerte. Parce qu'ils ont bien vu que c'était leur pire ennemi. Qui est le pire ennemi de la grande oligarchie financière aujourd'hui ? Ce sont les lanceurs d'alerte. Le pire ennemi des grands kleptocrates et des plutocrates en Afrique, ce sont les lanceurs d'alerte. Donc, effectivement, il faut exiger des lanceurs d'alerte. Il faut leur rappeler qu'ils doivent être sincères dans leur démarche. Parce que sinon, ils vont donner des arguments à ceux qui voudraient les disqualifier. Et donc, je 30 secondes pour dire, c'est notre responsabilité au sein de PLAF de veiller à ne pas être manipulés, instrumentalisés. On va nous lancer des pièges et des tractards, mais nous serons vigilants. Et aussi de ne pas être manipulés par des vendettas privées où on instrumentalise la vertu pour diffuser du poison et du vice. Donc, oui, c'est un mouvement inédit, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais qui demande pour chacun, à la fois les protecteurs et les lanceurs d'alerte eux-mêmes, un haut niveau de responsabilité, de sagacité et de discernement.
Alors, William Bourdon, vous parlez de sincérité des lanceurs d'alerte. C'est vrai qu'ils sont accusés d'être des délateurs, je l'ai entendu, accusés d'être des manipulateurs. Sur la solitude des lanceurs d'alerte, William Bourdon, j'ai en tête, parce que vous m'avez dit en début d'émission que vous l'aviez rencontré très récemment à Moscou, c'est Edward Snowden, poursuivi pour avoir défendu nos libertés en dévoilant les abus de la surveillance numérique du gouvernement américain, toujours exilé en Russie donc, un avenir incertain. Qu'est-ce que cette rencontre avec lui vous a inspiré, William Bourdon ?
Alors, je suis obligé d'être très discret sur ce qui se dit avec Edward Snowden. Simplement, c'était une réunion de travail de son collectif d'avocats internationaux. Il faut réfléchir avec lui et je ne peux pas en dire plus, sinon qu'il va bien et qu'il est un citoyen tout à fait exceptionnel, qu'il force l'admiration et que s'il m'écoute, je le salue. Voilà, mais en tous les cas, je rebondis sur la solitude du lanceur d'alerte. Plus on est dans une situation précaire, plus on est en risque de représailles, que ça soit de son employeur, de son administration, plus il faut vraiment anticiper sa stratégie, organiser ses forces, compter ses régiments, syndicats, associations, avocats, tissu familial. C'est très important en Afrique de pas se précipiter et de compter sur ceux qui peuvent être des outils de solidarité, des éclaireurs même, des passeurs. Et évidemment, PLAF peut constituer pour les citoyens africains aujourd'hui et demain un outil d'accompagnement pour éclairer leur chemin.
Jean-Jacques Lumumba, Renaud Piarou, la solitude du lanceur d'alerte, c'est quelque chose que vous avez bien connu. Jean-Jacques Lumumba.
Bien évidemment, oui, c'est une étape de solitude, parce qu'on est souvent incompris, si je dois le dire. Beaucoup de gens qui nous entourent ne comprennent pas le but pour lequel on fait ce qu'on fait. C'est une étape de grande solitude, ce que William vient de dire, il faut savoir sur qui compter. Pour moi qui viens d'un pays tyrannique et dictatorial, la première des choses qui est mise en jeu, c'est la sécurité personnelle et la sécurité de son entourage. Donc même ceux qui sont plus proches veulent tirer les draps de leur côté, d'où la solitude. Donc il faut être courageux, il faut avoir de la détermination surtout, et rester rigoureux et professionnel et surtout vrai dans ce qu'on fait. Parce que quand on poursuit la vérité, elle finit toujours par triompher.
Renaud Piarou.
Oui, je reconnais aussi que à partir du moment où on donne une information gênante, on se retrouve très vite seul, isolé dans la communauté internationale, puisque en tant que scientifique, on a un réseau mondial, on travaille pas seul. Donc pendant une certaine phase, pendant plusieurs mois, je me suis retrouvé relativement isolé. Je dois reconnaître que j'ai assez rapidement eu des soutiens, en particulier MSF, Médecins Sans Frontières, le MSF France, Ronny Broman en particulier, a compris ce qui s'est passé, a compris l'intérêt d'informer sur ce qu'il se passait, alors que il pensait que la théorie climatique était la bonne au début, je lui ai expliqué, et MSF France m'a appuyé. À ce moment-là, MSF France a été attaqué par les autres sections de MSF. Et c'est progressivement, en amenant la démonstration, que la solitude peut être rompue et que un groupe se constitue. Alors j'ai pas dû faire appel, d'abord ça n'existait pas en 2010, des plateformes de lanceurs d'alerte, mais la communauté scientifique a pu jouer ce rôle-là en arbitrant en quelque sorte la controverse et en démontrant que ce que j'avais expliqué était exact et qu'il fallait aller plus loin et chercher à voir maintenant comment éliminer le choléra et comment indemniser les victimes. Donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu ce besoin-là. J'en ai besoin maintenant. Je voudrais citer une personne qui s'occupe beaucoup de lanceurs d'alerte, qui s'appelle Caroline Chaumet, qui elle aussi a un site et essaye d'aider les lanceurs d'alerte, premièrement, et aussi d'aider à diffuser les informations qu'on a à diffuser.
Le site internet, puisqu'on a fait, non pas la promotion, mais on a parlé de la plateforme africaine, c'est les insoumis.
C'est la plateforme des lanceurs d'alerte, puisque le mot insoumis est depuis quelque temps un peu plus connoté, même si originellement ça correspond bien à ce que peut être un lanceur d'alerte.
Alors, on l'a compris, la protection des lanceurs d'alerte, elle est très diverse en fonction des législations mises en place ou non par les différents pays du monde. Aux États-Unis, il y a le Whistleblower Protection Enhancement Act de 2012. On a vu tout de même, William Bourdon, les États-Unis prouver à plusieurs reprises dans les affaires d'Edward Snowden, de Julian Assange et de Chelsea Manning, par exemple, que dès lors que l'intérêt national était en jeu, les dispositions devenaient caduques. Vous plaidez vous-même pour que l'immunité des lanceurs d'alerte soit également accordée au domaine des services secrets.
C'est pas tout à fait ça. Je pense que, s'agissant de la protection des lanceurs d'alerte au sein des services, l'idée qu'il y ait un régime particulier, moi, me choque pas. Je pense qu'il faut pas être angélique non plus, on peut être humaniste et réaliste. Donc ça pose des problèmes spécifiques. Simplement, la protection telle qu'elle existe dans la loi qui a été initiée par Urvoas il y a maintenant presque 3 ans est totalement insuffisante. C'est-à-dire que si demain il y avait un officier de la DGSI qui voulait imiter Edward Snowden, il pourrait pas le faire aujourd'hui en France parce que le mécanisme ne lui permettrait pas de le faire. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais il ne pourrait pas le faire. Il prendrait des risques absolument gigantesques. La loi Sapin 2 a introduit, et c'est un des premiers pays qui le fait, la France, cette extension du périmètre de l'alerte à la menace grave à l'intérêt général. Depuis 15 ans, il y a eu une progression de l'assiette, si je puis dire, de l'alerte. Au début, c'était la corruption, les infractions financières, et puis on est passé à la santé publique, on est passé à l'environnement, et maintenant, globalement, tout le monde est d'accord pour dire que celui qui lance l'alerte, dès lors que ça constitue un fait susceptible d'être une menace pour l'intérêt général, avec des variantes, doit être protégé. Que ça soit dans le public ou dans le privé, il y a cette dynamique universelle. Et puis, il y a une deuxième dynamique qui est de dire, un lanceur d'alerte pourra jamais se débâillonner, rompre l'omerta, faire fi de la peur qui le paralyse, s'il ne bénéficie pas, un, d'un authentique circuit de confidentialité, sinon il n'est pas à l'abri de ces tortionnaires, même des représailles. Donc ça, c'est compliqué, les circuits de confidentialité, évidemment. On pense à l'Afrique, où l'état de droit est souvent déjà tellement fragile et faible. Ça suppose des moyens techniques adaptés. Il faut que les entreprises jouent le jeu, c'est pas toujours le cas. Et il faut aussi accorder une forme d'immunité. C'est-à-dire que Antoine Deltour, s'il a un petit cousin en France, demain, il faut qu'il bénéficie d'une immunité, même si on lui oppose le fait qu'il viole le secret professionnel. Alors d'ailleurs, je termine juste, tout le monde doit avoir bien conscience de ce qui se joue en ce moment. Et à la fois cette dynamique dont vous portez formidablement tous les deux le drapeau, mais il y a aussi des forces contraires. Il a été voté par le Parlement français une loi... pour se mettre en ordre de marche avec la directive protégeant le secret des affaires. Et à cette occasion, il faut le dire, on a introduit plutôt un article qui est totalement en carambolage avec la loi Sapin 2, avec la disposition protection des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'on introduit une insécurité sur la protection des lanceurs d'alerte du fait de la dérogation possible pour les lanceurs d'alerte quand ils violeront demain le secret des affaires, mais qui les met moins à l'abri que le dispositif général de la loi Sapin 2. Et donc ça veut dire aussi que c'est une nouvelle responsabilité pour toutes les ONG du monde entier, pour toute la société civile, pour les avocats, pour les syndicats, parce que pour accompagner les lanceurs d'alerte et les aider à sortir de la solitude à laquelle ils condamnent parfois l'obscurité, il faut mutualiser toutes ces forces citoyennes autour d'eux, que ça soit lorsqu'ils sont dans la possibilité de rester dans leur pays. On l'a fait, n'est-ce pas Jean-Jacques, avec ces femmes admirables en Afrique du Sud. Elles sont en partie responsables de la fin de Zuma. Rien de moins, quand même. Voilà, donc encore une fois, on en est qu'au prologue, aujourd'hui.
En tout cas, c'est avec votre plaidoirie, William Bourdon, que s'achève Géopolitique. Je rappelle que vous êtes avocat et pénaliste spécialisé dans la défense des droits de l'homme, président de Sherpa, ONG spécialisée dans la défense des victimes de crimes économiques et président fondateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Olivier Piau, qui était avec nous dans la première partie de l'émission, journaliste, fondateur de Médias et Démocratie, auteur de L'audacieuse résistance des lanceurs d'alerte africains, article de l'édition mai 2018 du Monde diplomatique. Merci aussi à Jean-Jacques Lumumba, ancien cadre de la Banque gabonaise et française internationale, lanceur d'alerte à l'origine de ce que les médias congolais ont baptisé les Lumumba Papers, et Renaud Piarou, spécialiste des maladies infectieuses et professeur de parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Renaud Piarou, qui est le médecin qui a tenu tête à l'ONU en pointant la responsabilité des casques bleus à Haïti dans l'épidémie de choléra. Géopolitique qui était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée à l'agriculture l'agriculture et l'alimentation comme enjeu stratégique du 21e siècle. À demain.